Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment produire des idées avec les lois d'évolution de la méthode TRIZ. Tout d'abord, pourquoi est-il intéressant d'utiliser les lois d'évolution de la méthode TRIZ? Tout d'abord, parce qu'on éprouve une difficulté à se projeter dans le futur d'un produit. Lorsqu'on a un produit entre les mains, il nous semble souvent abouti et pour autant, on sait qu'il va évoluer. Par contre, prédire dans quelle direction ne semble pas si évident que ça. C'est pourquoi vous avez besoin d'une aide. C'est ce que nous apportent les lois d'évolution de la méthode TRIZ. Alors évidemment, ce ne sont pas des boules de cristal. En revanche, elles dessinent des pistes d'évolution à suivre. On observe que tous les objets techniques évoluent naturellement dans le temps. La méthode TRIZ propose une lecture originale et prédictive de cette tendance autour de 8 lois d'évolution universelles. Cette méthode de créativité a le mérite d'inscrire vos réflexions dans le sens de l'évolution technique probable de votre produit. Ensuite, en fonction d'où vous vous situez sur l'échelle d'évolution, vous pouvez quantifier le chemin à parcourir dans les années futures. Soit dit en passant, vous pouvez aussi vous comparer par rapport à vos concurrents, ce qui est très intéressant pour prendre du recul sur son marché. Maintenant, voyons ensemble comment aborder les lois d'évolution de la méthode TRIZ. Lorsqu'il s'agit d'utiliser les 8 lois d'évolution de TRIZ, il faut se plonger dedans et en comprendre le sens. Pour faire simple, ces lois se répartissent en deux groupes. Vous avez tout d'abord les lois statiques qui vous permettent d'analyser votre système en profondeur et de proposer des évolutions pour le rendre viable. Et vous avez ensuite les lois cinématiques et les lois dynamiques qui vous suggèrent des tendances d'évolution. Si vous voulez, chacune d'elles représente l'évolution probable d'un objet technique. Lorsque vous identifiez où en est votre système, ces lois vous aident à formuler des pistes d'évolution pour votre produit. Mais si on veut utiliser les lois d'évolution de TRIZ en séance de créativité, il vaut mieux les rendre plus digestes. À ce titre, on remarque que les lois d'évolution, suivent des critères qu'il est plus facile d'appréhender. Je vous propose donc une série de critères gradués qui peuvent varier de manière incrémentale lors de l'évolution d'un produit. Ainsi, disposant d'une succession de transformations possibles, il vous suffit de placer le curseur au bon endroit, tenant compte de la faisabilité technique et de l'intérêt actuel pour l'utilisateur. Du coup, cette méthode devient très simple à utiliser, sans forcément passer du temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment de chacune des lois d'évolution. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas voir l'évolution comme forcément linéaire, car il peut y avoir des sauts technologiques, mais si vous voulez, la marche en avant reste la même. L'évolution est une dynamique qui s'inscrit dans un environnement lui-même en mouvement. Alors voyons maintenant quels sont ces critères d'évolution. On peut commencer par les critères d'évolution qui concernent les matériaux utilisés. Tout d'abord, le critère d'adaptation. Si vous voulez, un matériau qui est passif, évolue vers une adaptation unique, puis une adaptation réversible, et enfin devient pleinement adaptable. Si on prend l'exemple d'une installation électrique, au début on utilisait des fils plutôt passifs, puis on a créé le fusible, et enfin le disjoncteur magnétothermique avec un système de bilames qui lui est réversible. Voyons maintenant le critère qui concerne la structure. Un matériau qui est utilisé de manière monolithique, intègre ensuite une cavité, puis de multiples cavités. Il devient ensuite poreux, et en plus de sa porosité, il intègre des éléments actifs. Alors si on prend l'exemple des vestes de randonnée, elles ont tout d'abord été imperméables grâce à une induction PVC sur un textile en polyamide. Ensuite, n'étant pas très respirantes, on est venu ensuite faire des trous pour l'aération. Puis est apparue la membrane microporeuse permettant l'imperméabilité à l'eau, mais laissant passer la vapeur d'eau, donc un matériau respirant. Et désormais, la membrane s'associe dans des assemblages multicouches à d'autres éléments actifs permettant par exemple la thermorégulation. Voici un critère qui concerne maintenant l'état du matériau. Un matériau solide évolue vers un état liquide, puis se transforme en micro-gouttelettes pulvérisables et enfin en gaz. Alors pour illustrer cette tendance, on peut prendre l'exemple des lubrifiants. Tout d'abord, il y a eu la graisse, qui n'était pas toujours facile à utiliser. Ensuite est apparue l'huile, permettant l'usage d'un contenant avec un bec de rallonge, à l'image d'une burette, si vous voulez. Puis l'huile est devenue pulvérisable pour faciliter la lubrification, même dans les endroits difficiles d'accès. Voyons maintenant des critères qui concernent la géométrie des parties. Pour commencer, le critère de localisation. Lorsqu'une partie est localisée sur un point, elle évolue sur une ligne, puis sur un plan, et enfin en trois dimensions. Alors si on prend l'exemple d'une prise de courant, il y a eu tout d'abord la prise unique, ensuite est apparue la multiprise avec une forme linéaire, puis la multiprise avec une forme représentant un plan, permettant comme ça la connexion des fiches dans n'importe quelle position. Et enfin, on voit maintenant des prises articulées dans tous les sens. Dans la même logique, on retrouve le critère de courbe, c'est-à-dire qu'une partie qui est en ligne droite, évolue vers une ligne courbe dans un plan, puis vers une ligne courbe en trois dimensions. Si on prend l'exemple des ailes d'avion, vous voyez que le bord d'attaque était rectiligne au début, puis il est devenu courbe, on voit l'exemple du Concorde, puis a évolué vers une courbe en trois dimensions avec l'intégration des winglets pour limiter la traînée due aux turbulences en bout d'aile. Voici maintenant un critère qui concerne l'état de surface. Un état de surface qui est lisse, évolue vers des protubérances, puis devient rugueux, et enfin rugueux avec des éléments actifs. Prenons l'exemple des dalles de carrelage. Tout d'abord, le carrelage était lisse. Ensuite, pour éviter le glissement, sont apparues des protubérances. Puis les dalles sont devenues rugueuses pour plus de confort, notamment lorsqu'on marche pieds nus. Voyons maintenant des critères qui concernent l'architecture de l'objet. Et pour commencer, celui qui concerne la dimension de fonctionnalité. Là où une fonction apparaît dans un espace de l'ordre du centimètre, cela évolue au niveau du millimètre, ensuite au niveau du dixième de millimètre, puis du centième et enfin jusqu'au micron. Alors si on prend l'exemple pour la lumière, tout d'abord il y a eu l'ampoule qui mesure quelques centimètres, ensuite la LED qui mesure quelques millimètres, et enfin maintenant la fibre optique qui est de la taille d'un cheveu. Voici à présent le critère de symétrie. Voyez un objet qui est constitué d'une architecture symétrique, évolue vers une architecture partiellement asymétrique, puis vers une asymétrie adaptée à l'utilisateur. Prenons l'exemple des ciseaux que nous connaissons tous. Tout d'abord, les ciseaux sont apparus symétriques au niveau du passage de doigts, puis ils ont évolué vers une asymétrie pour passer plus de doigts dans un trou, permettant ainsi d'exercer un effort plus important. Et enfin, ils sont devenus adaptés pour des gauchers ou des droitiers. Alors, toujours au sujet de l'architecture du produit, voici le critère de dynamisme. Vous voyez, une structure rigide devient articulée, puis flexible, évolue ensuite vers une solution avec un fluide, pour enfin exploiter l'utilisation de champs. Si on prend l'exemple des tentes de camping, au début, la structure était rigide, avec des axes tubulaires, on voit ici la tente canadienne, puis ces tubes sont devenus repliables, avec un lien élastique à l'intérieur, pour ne pas perdre les différentes parties. Ensuite, la structure est devenue souple, avec des arceaux, voyez ici l'exemple de la tente de seconde, et on voit désormais apparaître des tentes qui sont gonflables. Voici un critère qui concerne les degrés de liberté fonctionnelle. Un système utilisant un degré de liberté évolue vers 2 degrés de liberté, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 6 degrés de liberté. On peut prendre l'exemple des machines-outils qui ont évolué au fil du temps vers plus de degrés de liberté pour réaliser des usinages de plus en plus complexes. Par exemple, la perceuse à colonne sur un axe a évolué vers une fraiseuse 3 axes et désormais nos centres d'usinage opèrent suivant 6 axes. Voyons maintenant un critère qui concerne l'adaptation aux besoins. Un système qui à la base est complexe évolue vers plus de simplicité par l'élimination de certains composants, puis l'élimination d'éléments du sous-système, et enfin évolue vers un système prêt à l'emploi. Si on prend l'exemple du point de commande d'un volet roulant électrique, vous voyez, pour le faire monter ou descendre, eh bien tout d'abord, les systèmes étaient filaires, ils le sont encore hein, pour une bonne partie. Alors c'est simple à installer dans une habitation neuve parce que c'est prévu à l'avance, mais ça devient complexe en rénovation car il faut faire une saignée dans les murs pour faire passer les fils, donc c'est plutôt complexe à installer. Puis le point de commande a évolué vers un système radio, sans fil, mais avec un inconvénient, c'est qu'il y avait une pile à changer régulièrement. Et enfin, le système est devenu radio, sans fil et sans pile. Alors sans pile, grâce à un système qui exploite tout simplement la pression du doigt pour générer juste un petit courant électrique suffisant pour envoyer le signal de commande. Voici un nouveau critère qui concerne l'intégration. Vous voyez, un système non intégré, eh bien, devient partiellement intégré, puis totalement intégré et enfin fusionne dans le supersystème, c'est-à-dire dans son environnement proche. On peut prendre l'exemple de l'intégration du volet roulant. Tout d'abord, il a été posé en applique sur la maçonnerie. Ensuite, il s'est intégré dans la maçonnerie pour se fondre dans l'architecture, donc par souci esthétique. Puis il s'est intégré en bloc baie avec la fenêtre, hein, directement, facilitant ainsi énormément la pose. Et enfin, on voit désormais maintenant apparaître des systèmes d'occultation directement intégrés dans le triple vitrage. Voyons maintenant des critères d'évolution en lien avec le niveau de sensorialité dans l'usage. Pour commencer, voici le critère concernant le nombre de sens sollicités. Un système qui sollicite un sens, eh bien, évolue vers un deuxième sens, puis un troisième, éventuellement un quatrième, jusqu'à cinq sens. Si on prend l'exemple d'un réveil, tout d'abord, il nous réveillait uniquement avec un son, ensuite est apparue une solution qui en plus proposait la lumière, puis une dernière version qui est apparue récemment avec l'odeur, et là je vous laisse imaginer une solution future avec le toucher ou le goût, pourquoi pas. Il y a également un critère qui concerne le nombre de couleurs. Vous voyez, un système sans couleur particulière, eh bien évolue vers une proposition de couleurs binaire, puis vers le spectre visible, et enfin tout le spectre. Si on prend l'exemple de la lumière, tout a commencé avec une lumière blanche, plutôt jaune d'ailleurs, puis les ampoules ont évolué en proposant une lumière chaude ou froide. Désormais, on voit des ampoules multicouleurs grâce à la technologie des LED. Voici un critère qui concerne la transparence. Un système opaque devient partiellement transparent, puis totalement transparent et enfin intègre des matériaux actifs. Alors pour illustrer cette tendance d'évolution, on peut prendre l'exemple des lunettes de protection solaire. Vous voyez, les Esquimaux ont tout d'abord inventé le masque opaque, mais avec une fente réduisant le passage de la lumière. Ensuite sont apparues des lunettes solaires transparentes, mais légèrement teintées. Puis les verres sont devenus photochromiques, dont l'opacité varie en fonction de la quantité de lumière. Maintenant, abordons des critères en lien avec la contrôlabilité du système. Et tout d'abord, le critère de contrôle en lui-même. Dans un système où le contrôle est direct, eh bien, il évolue vers un contrôle permettant une mesure, tout d'abord. Ensuite, il permet le retour d'un feedback. Puis le système devient adaptatif pour enfin devenir auto-apprenant, puis auto-évolutif. Si on prend l'exemple du chauffage dans une maison, pour commencer, eh bien, on se chauffait tout simplement avec un poêle en bois. Si on avait froid, eh bien, on mettait du bois, vous voyez, c'était direct. Puis avec l'arrivée du chauffage central et l'utilisation d'eau chaude, eh bien, est arrivée la vanne réglable, ensuite la vanne thermostatique, puis le thermostat programmable, suivi du thermostat connecté, qui est programmable à distance, et enfin le thermostat connecté auto-apprenant, qui en fonction de votre mode de vie, eh bien, adapte au mieux les conditions de chauffage. Voici un critère qui concerne la coordination d'une action. Vous voyez, une action qui est non coordonnée, eh bien, évolue vers une action partiellement coordonnée, puis synchronisée, et enfin pouvant être différente pendant le repos. Prenons l'exemple du chauffe-eau. Vous voyez, les premiers cumulus eh bien, fonctionnaient H24, puis ils ont coordonné le cycle de chauffe sur les heures creuses, et désormais ils coordonnent la quantité d'eau à chauffer par rapport aux besoins du foyer et de son mode de vie. Voici maintenant un critère qui concerne l'adaptation aux conditions. Un système dont l'évolution est linéaire, eh bien, évolue vers un fonctionnement partiellement non linéaire, puis permet une adaptation complète. Alors ici, on peut prendre l'exemple des feux de circulation. Vous voyez, le fonctionnement, eh bien, à la base est plutôt linéaire, mais il a évolué vers un système qui s'adapte en fonction de l'heure de la journée, et enfin, en temps réel, en fonction du trafic. Le dernier critère dont je vais vous parler concerne l'intervention humaine. Dans l'histoire des produits, on remarque que l'utilisateur, eh bien, commence par réaliser l'action principale, puis réalise ensuite une action limitée. Ensuite, il devient contrôleur pour devenir ensuite superviseur, et enfin, le système devient complètement autonome. Alors, l'exemple de la tondeuse à gazon illustre très bien cette évolution. Vous voyez, au début, avec l'usage de la faux, eh bien, l'utilisateur réalisait l'action principale. Avec l'arrivée de la tondeuse, il ne faisait que pousser, finalement, la tondeuse. Avec la tondeuse autotractée, il ne fait plus que guider l'objet. Avec la tondeuse GPS, il laisse faire, mais supervise l'opération en décidant notamment quand la tondeuse doit couper l'herbe. Et enfin, avec la tondeuse robot, eh bien, l'utilisateur ne s'occupe plus de rien. Voyons maintenant comment utiliser ces critères d'évolution lors d'une séance de créativité. Pour appliquer cette méthode, je vous propose un processus tout simple en trois étapes. Tout d'abord, il faut afficher un critère et son échelle d'évolution, puis tout simplement situer où en est votre produit. Alors il faut préciser que votre regard peut se porter sur le système complet ou seulement une partie, donc il faut rester ouvert par rapport à ça. Et si vous avez le temps, eh bien vous pouvez aussi vous interroger à savoir où en sont vos concurrents. Ça vous permettra de prendre du recul sur l'évolution de votre produit dans le contexte de votre marché. Ensuite, projetez votre système dans les étapes d'évolution suivantes et imaginez une mise en œuvre possible. Et enfin, définir l'intérêt de cette évolution, notamment en précisant le bénéfice apporté. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment d'évaluer où en sont vos produits et proposer une nouvelle évolution. Cette méthode de créativité, elle mérite d'inscrire vos réflexions dans le sens de l'évolution technique probable de votre produit. Il faut voir cet outil comme une lampe torche qui éclaire du bon côté la pièce noire dans laquelle vous êtes. Et en réalité, c'est un gain de temps énorme en termes de productivité. Pour appliquer cette méthode à un de vos produits, je vous ai mis au-dessous de la vidéo une fiche outil avec l'ensemble des critères d'évolution. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite un bon exercice. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.